Je suis dans le studio de BLP Radio avec Gabriel Kroger. Salut, comment tu vas ?
Salut, ça va très bien.
On est ici pour parler un petit peu de ton projet et parler notamment de l'EP Mémoire d'un jeune dégueulasse qui est sorti le 30 mai, je crois.
31 mai même.
31 ouais. mai même. Est-ce que déjà tu peux nous parler de la genèse du projet ? On va pas en dévoiler beaucoup, mais toi tu faisais aussi partie d'autres projets musicaux. Comment tu as eu l'envie de partir sur le projet Gabriel Kroger ?
Eh bien, en fait, ça fait un moment que je fais de la musique tout seul et avec d'autres personnes. Et en fait, il est arrivé un moment, je crois que c'était vers 2018, quelque chose comme ça, où j'écrivais beaucoup, je composais beaucoup. Et c'était un peu trop pour trouver forcément toujours des gens avec qui créer ces morceaux. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais ouvrir un SoundCloud basique, quoi, et je vais mettre dedans tous les petits trucs que je produis. Il n'y avait même pas encore de voix à l'époque, c'était des morceaux instrumentaux. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, peut-être que je peux déjà utiliser ma voix et peut-être que je peux aller créer des choses qui, du coup, prendront plus tard la forme d'EP, etc. Et c'est comme ça qu'en 2020, deux ans plus tard, je fais une sorte d'EP album qui s'appelle Le Journal d'un jeune dégueulasse et qui est, du coup... ce qui a donné, 4 ans plus tard, les Mémoires d'un jeune dégueulasse, du coup, qui est un peu la version augmentée et retravaillée entièrement de ce premier jet créatif que j'avais fait en 2020.
Et les premiers trucs sur SoundCloud, c'était dès 2018, c'est ça ?
C'est ça, fin 2018, début 2019.
Et t'avais déjà cette identité Gabriel Kroger à l'époque ou c'est quelque chose qui est apparu au fur et à mesure ?
C'était déjà sous ce nom-là, forcément. Après, en termes de style, ça se baladait un peu parce que, pareil, j'ai toujours eu tendance à essayer de mélanger un peu différentes pattes de création. Du coup, il y avait toujours ce côté folk sur les guitares, le côté rock sur l'énergie. Et notamment à l'époque où j'avais pas forcément de quoi enregistrer des batteries, il y avait plus un côté, des fois, drum machine, batterie électronique, qu'on retrouve un peu dans les Mémoires d'un jeune dégueulasse où là, j'ai refait ce choix de mélanger des batteries acoustiques et des samples, des batteries MIDI, etc., dont les sons me plaisaient aussi.
Bah justement, parlons un peu style-influence. Donc tu disais, il y a le côté folk, il y a le côté rock, il y a aussi des grosses influences prog, on ne va pas le cacher. Il y a aussi une appétence autour de tout ce qui est la poésie. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça ? Qu'est-ce qui t'inspire, toi ? Qu'est-ce qui t'influence ?
Si on doit prendre les Mémoires d'un jeune dégueulasse comme base... Je pense que y a une partie qui est assez évidente, qui est celle de l'écriture en français. Moi, c'est une langue que j'adore. Ça fait longtemps que j'écris en français, que ça fait longtemps que j'écris tout court. Et en parlant de ça, du côté chanson, etc., en venant là justement dans la voiture, j'ai réécouté un disque de Thomas Fersen. Je pense que c'est notamment une des premières personnes dans la chanson un peu alternative française qui m'a marqué. Côté un peu loser magnifique, très drôle en même temps, très très malin, qui s'apitoie un peu sur son sort, mais en même temps toujours avec de l'humour. Je pense que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Évidemment, il y a le côté rock qui s'ajoute là-dessus et qu'on ressent, je pense, notamment en live. Et pour le coup, les Mémoires d'un jeune dégueulasse, c'est le premier disque sur lequel ce sont les musiciens du coup qui m'accompagnent en live qui jouent leur partie. Et du coup, on a essayé de ramener aussi cette énergie rock parce que nous, en fait, on s'est beaucoup formé là-dessus, sur le live et sur cette énergie rock, punk, etc. Et la partie folk, bon, là, je pense que je me suis fait un peu retourner le cerveau par des disques de folk plutôt entre mes 15 et mes 18 ans et au moment où j'apprenais en plus à jouer de la guitare. Et vraiment, c'est des trucs qui m'ont jamais quitté ou... C'est des sons et des textures que j'adore. Simplement le bruit d'un instrument qui résonne tout seul dans l'air, sans avoir besoin d'un ampli, etc. Et c'est des choses, ça c'est des choses qui font aussi une grosse partie intégrante de ma musique, quoi.
parlais de tes musiciens donc, qui sont les mêmes qui t'accompagnent sur scène que sur l'EP Mémoire d'un jeune dégueulasse. Est-ce que justement on peut en parler, les présenter? Qui t'accompagne sur ce projet?
Ils sont au nombre de trois. C'est des super copains. Le premier, celui qui m'accompagne depuis le plus longtemps, je pense, là-dessus, c'est, il s'appelle Christopher, de son nom d'artiste Edgar, E-A-D-G-A-R. Du coup, il fait la basse, les chœurs, en live, sur le disque également. Et il gère aussi toute la partie graphisme, qui est quelque chose sur lequel je suis assez nul. Et lui, c'est un mec qui a plein d'idées super là-dessus. Bon, il faut aller voir un peu tout ce qui est... la plupart de ce qui se trouve sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, etc. C'est beaucoup d'idées qui sortent de sa tête et qui réalisent notamment à la main. Il y a beaucoup de trucs dessinés, beaucoup de graphies qui sont faits aussi à la main. Et bon, j'en profite pour placer une petite dédicace à son EP. Du coup, il a sorti même un EP de son côté en février, le 21 février, que j'ai produit intégralement et sur lequel je suis même en invité sur un morceau. Donc voilà, Chris, c'est quelqu'un qui m'inspire aussi pas mal sur la partie musicale. Ensuite, il y a Kevin à la guitare électrique, avec qui je joue depuis un moment aussi. On se connaît, voilà, on s'est rencontrés il y a quelques années, on fait beaucoup de musique. C'est un peu notre technicien ultime. C'est un excellent guitariste qui a beaucoup de goût sur le travail du son. Et c'est aussi notre électronicien, finalement. C'est lui qui nous répare tous nos amplis, les pédales d'effet, qui fabrique des pédales d'effet, qui met de l'ordre dans nos pédalboards, etc. Et le dernier arrivé dans cette équipe-là, c'est Cyprien Laureau, à la batterie, qui est un batteur absolument excellent, que j'adore voir jouer. Et voilà, c'est lui qui nous suit sur l'aventure live depuis maintenant... Non, 1 an et demi, 2 ans, je pense, voilà, qu'on a commencé à monter ça en live.
Comment vous fonctionnez justement en termes de travail en équipe? C'est toi qui compose, j'imagine, ou pas que? Comment se font les arrangements? Quel est le rôle un peu de chacun là-dedans?
Ça a un peu évolué avec l'arrivée de cet EP-là, Les Mémoires d'un jeune dégueulasse, qui est du coup le premier EP, enfin le premier disque, la première sortie sur laquelle les musiciens, du coup, ces trois musiciens-là du live, jouent leur partie. Sur tout ce qui était sorti avant, donc l'EP Vieillerie de janvier 2023, tous les singles qu'il y a eu entre et tout ce qu'il y a avant, c'était dans 90% des cas, moi qui jouais tous les instruments. En fait, j'ai toujours eu cette sorte d'éthique de travail DIY, assez hérité du coup de la musique indé, du rock indé, que j'écoute énormément depuis que je suis adolescent. Et du coup, j'ai rassemblé un peu de matos au fur et à mesure et j'ai un peu appris de mon côté comment est-ce qu'on enregistrait, comment est-ce qu'on mixait de la musique. Et tout ce que je sortais avant, c'était moi qui jouais et qui mixais tout. Et ensuite, j'apportais les morceaux du coup aux gars du live band pour qu'on les réarrange un peu pour le live. Et pour Les Mémoires d'un jeune dégueulasse, on a un peu changé ce truc-là, vu que du coup, les morceaux existaient déjà sous une forme très folk-punk même, tels qu'ils étaient sortis du coup sur mon tout premier EP en 2020. Là, on a eu un gros travail de réarrangement, on a pimpé, comme on dit, tous les morceaux pour en faire des versions plus rock, plus prog même. Parfois, il y a des choses qu'on a un peu complexifiées, parce que le postulat de base de ces morceaux, c'était de composer des choses très simples, très droites au but à l'origine. Et voilà, du coup, là, on a un peu plus fait ce truc-là de... C'est mes compos, j'ai un peu amené les parties, mais sur tout le travail de réarrangement, c'est eux qui mettent leurs pattes. Et comme je disais, moi, c'est des musiciens que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup dans leur manière de jouer et de travailler leur son. Et du coup, forcément, rien que sur le travail des effets, des textures, etc., il y a beaucoup de choses qui viennent d'eux aussi, sur la partie esthétique vraiment du son.
Tout est à sa place quand ma tête y est. Un seul pas de côté. Plus rien ne tient debout. Je construis des cases mi-molles dedans.
Au niveau des textes, c'est toi qui écris tout, j'imagine, de quoi ça parle. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est tout en français, hein, on précise.
Ouais, tout à fait. C'est moi qui écris tout, à l'exception, du coup, sur les mémoires de la septième piste, qui s'appelle 24-12-16. C'est une date. Et du coup, ce morceau, c'est un récit de rêve qui est écrit par une amie, qui s'appelle Adina Dufeu. Et tout le reste, effectivement, c'est écrit par moi. Ces morceaux-là, du coup, comme je disais, c'est des textes qui, à l'origine, dataient de 2018 même, que j'avais fini par mettre en musique en 2020. J'ai réécrit des petites parties de certains morceaux, notamment un morceau parlé qui s'appelle « Discours sur l'origine du monde ». Et ce texte-là, du coup, c'est celui que j'ai le plus modifié par rapport à la version originale, pour y apporter quelques évolutions par rapport aux choses que j'ai pu vivre et observer autour de moi entre-temps. Mais ouais, sinon voilà, tout est écrit par moi. J'ai une sorte de relation très intime au texte. Souvent, mes textes, je les écris à la main sur des petits carnets et je les garde pendant longtemps même, de même que les compositions. J'ai ce truc-là un peu de garder pendant longtemps pour moi des textes, un peu les regarder, les jouer en boucle. Ouais, et voilà, je pense que sur la partie écriture... Tout à l'heure, on parlait un peu de la chanson alternative française qui a ce côté un peu désabusé, un peu de regard sur soi-même et sur la société. Des fois un peu sombre, mais toujours un peu marrant. Je pense que c'est quelque chose qui me représente pas mal mon écriture.
J'ai germé seul comme mes idées. La plus belle de la classe, toujours dans mon lit, en rêve. Je croise des regards, tout le temps tous pour moi. On m'aime mais on ne se l'avoue pas. Comme une ortie parmi les ronces. Ils sont plus grands, plus forts, mais moi plus retors. Je gratte l'écorce comme un parasite.
Récemment, sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de live sessions / clips qui sont sortis. Est-ce que tu peux nous en parler, notamment avec qui tu as travaillé sur la partie vidéo?
Comme pour la plupart de ce que je fais, c'est beaucoup d'amis avec qui je travaille. Pour cette EP-là, on a fait un clip, notamment pour « Je déteste les gens tristes », qui est un peu le morceau peut-être le plus... rigolo, entre guillemets, de l'EP. Et moi, l'idée que j'avais, c'était... j'ai envie d'aller me balader dans la rue, comme je suis d'habitude, sur scène, en cagoulé, etc., avec ma guitare et un micro et une caméra, et d'aller demander à des gens, est-ce que vous aussi, vous en avez marre des gens tristes? Est-ce que vous détestez les gens tristes? Bon, ce qui est assez marrant, parce que je fais de la musique triste en général... Mais du coup, on est vraiment parti faire ça avec un ami qui s'appelle Loïs et qui réalise notamment plus généralement des clips de rap, pas mal. Vous pouvez aller voir un peu son travail sur Instagram, c'est JFD, Just for Design. Et surtout la partie plus étalonnage, montage et tous les effets, là c'est Christopher, du coup, qui est également le bassiste en live. On travaille beaucoup de choses ensemble. Et pour plus tout ce qui est live, c'est... on a tourné quelques trucs, on a sorti un live de Je déteste les gens tristes à Paul B, justement à Massy. On avait sorti un petit live au Supersonic aussi.
Un live au plan, là, qui est sorti récemment.
Un live au plan qui est sorti il y a quelques jours.
Il y a quelques jours, on enregistre. Ça, ouais.
La plupart de ces lives-là, c'est un ami qui s'appelle Rémi Litas, enfin, qui les capte, qui les monte et qui les étalonne. Rémi Litas et Maxence Bussière. À l'exception du coup du live au plan, où là, ça a été travaillé avec les étudiants et les étudiantes de l'EMC à Malakoff, qui est du coup une école de son et de vidéo. Ouais, j'avais envie un peu de montrer à quoi est-ce que ça ressemble en live, parce que, on, comme je disais, on vient de cette culture du rock, du live, où... pour nous, ça n'a pas d'intérêt de faire du live si ça n'ajoute pas une vraie intensité et une vraie puissance au morceau. Et comme je sais que ça, on le fait plutôt bien en live, j'avais envie de le capter en vidéo et de montrer ça, quoi.
Bon, on va parler un peu plus en détail de l'EP Mémoire d'un jeune dégueulasse. Donc, bah, avec qui tu as répondu un petit peu à la question tout à l'heure, hein, en présentant tes musiciens, mais peut-être en termes de mix, de réal, est-ce que tu as bossé avec d'autres gens que les trois Zikos avec qui tu bosses?
On a enregistré à plusieurs endroits différents. Du coup, sur 9 titres, il y en a 4 qui ont été enregistrés par Michael Berébi dans son studio. Du coup, on a enregistré pas mal de morceaux. Le tout premier morceau de l'EP et les trois interludes. Et le reste, ça a été enregistré, donc comme j'en parlais juste avant, avec des étudiants et étudiantes de l'EMC Malakoff, au studio Sextant à Malakoff et dans d'autres salles, notamment des studios de cette école-là. Avec ces trois personnes-là qui m'ont enregistré, c'est des personnes qui n'étaient pas encore professionnelles à l'époque, mais qui ont fait un travail de fou sur ces enregistrements-là que j'adore. Pour la partie post-production, donc le mixage, là pour le coup j'ai gardé mes bonnes vieilles habitudes, c'est que je l'ai mixé moi-même, chez moi, dans ma chambre, comme c'était le cas pour tous les précédents EP et tous les précédents singles qu'il y a eu. Ça pour moi c'était très important en fait de garder la main sur cette étape-là, parce que au mixage pour moi on peut travailler et changer énormément de choses dans la manière dont un enregistrement sonne. J'avais une fenêtre de temps assez réduite pour mixer tout ça. Et du coup, j'ai essayé de travailler de manière très instinctive là-dessus et de me dire, OK, les premières choses qui me sautent aux yeux sur les mises à plat des morceaux, j'essaie d'aller à fond là-dedans. Et s'il y a des choses qui me sautent un peu à l'oreille, je les exploite à fond. Et du coup, il y a des morceaux sur lesquels je suis allé rajouter à des moments des effets très marqués. Par exemple, le morceau Orphée, qui démarre dans une grande réverb room et qui finit dans une saturation qui prend du coup l'ensemble du morceau et pas juste certains instruments. Voilà, c'était des idées qui me sont venues directement comme ça. Je me suis dit, OK, je ne réfléchis même pas, je les applique.
Et un morceau avec de l'autotune aussi?
Ouais, sur Orphée, il y a un petit moment.
C'est sur
Orphée aussi, il y a un petit moment où la voix n'était pas autotunée de base, mais la manière dont il chantait, je me suis dit, je sais pas pourquoi j'entends à ce moment-là un autotune type, autotune de rap, etc. Pareil, je me suis dit, OK, si je l'entends, c'est qu'il y a une bonne raison. Et je suis allé à fond là-dessus. Effectivement, on l'entend sur des chœurs à la fin. Il y a cette autotune-là un peu marquée qui donne ce côté un peu artificiel à cette partie de voix et qui, je trouve, collait bien avec ce morceau où cet effet un peu artificiel sur la voix complimentait bien cette ambiance-là.
Je vais m'arracher les oreilles. Je veux juste rentrer chez moi.
Et du coup, pour finir, le mastering, du coup, le dernier coup de vernis sur l'ensemble des morceaux, ça a été fait par quelqu'un qui s'appelle Hugo Fouassier de Sinusia Studio, qui est du coup basé à Angers, avec qui j'avais déjà bossé un peu avant sur le single Martha, tu me terrifies, que j'avais sorti quelques mois avant, fin 2023, je crois.
Qu'on ne retrouve pas sur l'EP, hein.
Non, qu'on trouvera, je suis en train de travailler dessus, par contre, sur une version CD de l'EP qui va sortir, sur lequel je me suis permis de mettre des petits morceaux bonus qui sont en fait différents singles et des petites versions live, dont Martha, tu me terrifies.
Sur cette EP, on retrouve beaucoup de chants. On parlait ce côté un peu folk, prog, avec aussi le côté batterie électronique. Et puis il y a deux morceaux qui sortent un petit peu du lot, des morceaux un petit peu plus spoken word, poésie. Pourquoi cette envie de varier, de faire autre chose que du chant?
Je pense que pour répondre à cette question, je vais repartir un peu à la genèse des mémoires et du coup de ce qui était à l'origine le journal d'un jeune dégueulasse, donc ce sorte de premier EP très folk, complètement autoproduit que j'avais sorti il y a 4 ans. À l'époque, en fait, j'apprenais à chanter. C'est un grand mot, on peut même dire que je ne savais pas vraiment utiliser ma voix. Mais pour moi, c'était assez vital, en fait, à ce moment-là, de créer ces morceaux et de les interpréter moi-même, même si je pouvais avoir un peu de mal, des fois, à les chanter correctement, à comprendre comment utiliser ma voix. Sur la manière dont j'amenais les lignes de voix, il y en a quelques-unes qui assez vite devenaient une sorte de chanter-parler ou avec des mélodies assez monotones. Et du coup, il y a même certains morceaux où là, je me suis dit, là, le texte, en fait, c'est pas un texte qui doit être chanté. Là, c'est des textes où je veux en fait poser ce texte-là comme si je le posais sur une page blanche pour le lire. Sauf que là, en fait, je vais le poser sur un fond musical. Et du coup, ça a donné ces morceaux spoken word, parler. Du coup, le discours sur l'origine du monde, qui est une sorte de, comme je disais, une sorte de vision un peu très désabusée, très sombre de l'humanité, en fait, de son aube jusqu'à même un futur qui paraît assez incertain et assez sombre. 24-12-16, qui est une sorte de récit de rêve un peu halluciné et angoissant, comme je disais, qui n'a pas été écrit par moi, mais que je voulais absolument mettre en musique. Il y a un troisième morceau où il y a un petit passage de texte qui s'appelle « De la mort à la naissance ». Mais là, ce n'est ni ma voix ni mon texte, c'est un extrait de Sioran, du livre « De l'inconvénient d'être né ». Et c'est une lecture, c'est un sample, voilà, d'une lecture d'un extrait de ce morceau.
En fouillant un peu ton Spotify, il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment sauté aux oreilles. C'est un remix par Tonio Walk d'un de tes morceaux avec une techno assez bruitiste. Comment s'est fait le contact? Est-ce que c'est quelqu'un de ton réseau? Comment il y a eu cette envie de se faire remixer? Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, c'est effectivement, ça peut surprendre. Je pense qu'on met les morceaux en aléatoire de tomber là-dessus. Tonio, du coup, on s'est croisé à l'occasion d'un concert que j'allais faire à Tours, dans un lieu qui s'appelle Le Quartier. Et en fait, j'étais invité par un groupe d'amis qui s'appelle Ineige, qui ont sorti un premier album excellent d'ailleurs il y a un mois peut-être. Et en fait, il s'avère que Tonio était le coloc du bassiste de ce groupe-là, de Mathias, du coup, de Ineige, et qu'on s'est retrouvés déjà pendant les concerts à pas mal parler. Après mon concert, il m'a dit « Mec, je ne suis plus l'ami de tes amis », du coup, qui est un de mes morceaux. Il m'a dit « J'ai adoré ce morceau-là, trop bien, j'aimerais bien le remixer ». Il a commencé à m'en parler, vraiment sorti de scène, quoi. Ensuite, on est parti faire l'after, boire quelques petits coups, et on a reparlé, et on est resté en contact. J'ai un peu vu la musique qui sortait. Il avait sorti un EP assez cool ensuite, qui s'appelle « Stagger ». Et au fur et à mesure des discussions, il m'a dit « En fait, mec, là, je suis sur un projet de... je vais faire des remixes d'artistes plus ou moins connus, mais de morceaux voilà, qui me plaisent vraiment. » Et en fait, il m'a proposé de remixer ce morceau-là, « Je ne suis plus l'ami de tes amis ». Je lui ai envoyé... moi, j'ai zéro hésitation. Je lui ai envoyé toutes les pistes. Je lui ai dit « Avec plaisir, tu as carte blanche, fais ce que tu veux. » Et j'ai découvert, du coup, quelques semaines après, ce remix qui, effectivement, a ce côté techno, un peu expérimental, un peu bruitiste, très chargé dans les textures, dans les sons, dans les ambiances. C'est un travail que je trouve assez impressionnant pour les personnes qui sont sensibles à la musique électronique. Je vous conseille vraiment d'aller écouter ça et le reste de ces morceaux et de ces remixes. Et ouais, moi j'étais très fier de le faire apparaître sur ma page Spotify et sur les autres plateformes de streaming, parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez cool, en fait, de mélanger ce côté texte, parce qu'en fait il a laissé très net les parties de texte du morceau qu'il a sélectionné, et les mélanger avec cette sorte de techno un peu indus, expé, très écrasante et en même temps assez belle, assez fragile parfois, quoi.
La nuit est tombée si vite, tu es parti avec mes affaires et revenu avec tout ce qui a changé chez toi. Je n'y étais plus, je ne peux rien y faire. Je déteste ce que je peine à oublier et ton digicode s'efface de ma mémoire. Hier était noir,
Pour conclure, comment tu vois la suite de l'année 2024 là, pour Gabriel Kroeger ? J'imagine qu'il y a l'envie, alors peut-être pas dès cet été, mais plutôt à l'automne, de tourner pour défendre cette EP ?
Ouais, carrément. Mais là, on a une petite dernière date parisienne, mais en trio, un peu tranquille, à l'international, au rez-de-chaussée de l'international. Et ensuite, on va reprendre plus vers septembre-octobre. On est en train de caler pas mal de petites dates. L'idée, c'est effectivement d'aller montrer ce qu'on vaut en live, aller un peu mettre le bordel dans des salles de France et de Navarre. On a quelques trucs qui vont se programmer. En décembre, il y a une date à Orléans. Il y a une date dans le 77 à Pontaucombo, peut-être courant automne. Une date parisienne dont je ne peux pas parler tout de suite, mais qui va être très chouette, qui va se passer en octobre. Voilà, on est en train de caler ça. On essaie de ramener des groupes super cool sur toutes les dates pour tout casser, quoi. Comme je suis toujours un peu hyper actif, je suis déjà en train de finir de composer, d'écrire des morceaux pour la suite. Il y a des choses dont je suis déjà très fier et que j'ai très très hâte d'aller enregistrer et de montrer en live aussi.
Et pour les gens du coup qui veulent se tenir au courant, soit des prochaines dates de concert, soit des futures sorties, quelles sont les bonnes adresses sur les réseaux ?
Alors sur Instagram, je mets un peu tout. On met du rigolo, on met du sérieux et toutes les infos surtout sont là. C'est @Gabriel_Kroeger, K-R-O-G-E-R. Et sinon, c'est sur Facebook également. Sur YouTube, vous pouvez aller voir, si vous êtes friand et friande de live, j'en ai publié pas mal. C'est tout joli, c'est bien filmé, ça sonne bien, n'hésitez pas. Et pour les gens qui aiment un peu plus les contenus rigolos, je suis aussi sur TikTok, @GabrielKroeger, tout attaché. Il y a notamment tous les extraits de micro-trottoirs dont je parlais pour le clip de Je déteste les gens tristes. Parce que forcément, quand on va voir des gens dans la rue et à la sortie des bars en leur disant « Est-ce que vous détestez les gens tristes ?», des fois, on a des réponses assez marrantes.
Ah, donc il y a les bêtisiers qui traînent.
Tout à fait, c'est ça.
Super. Eh ben, merci bien, Gabriel Kroeger. Et puis, bonne continuation.
Trop bien. Merci à vous aussi. Quand j'ai levé les yeux sur la femme qui habitait là, j'ai juste vu une dame très mate de peau. Cheveux noirs attachés, robe grise, mais très propre. Sans aucune tache ni sur son visage ni sur ses vêtements. Je lui ai dit qu'il y avait du sang jusque sur le seuil. Elle a poussé un long soupir et m'a regardé d'un air désespéré. Je me souviens l'avoir beaucoup aimée et avoir voulu l'aider. J'ai vu du coton à côté du lavabo et lui dit de patienter 2 secondes, le temps que je prépare de quoi la nettoyer. Alors qu'elle n'avait vraiment pas la moindre tache sur elle. Mais elle me faisait pitié et je faisais tout pour lui paraître gentil. Après avoir mis de l'eau sur du coton, je me retourne et la femme en question avait le visage éraflé de tous les côtés. Il lui manquait l'œil gauche, sa robe dégoulinée de sang. Je me suis approché d'elle et lui nettoyais le visage tout doucement en lui répétant qu'elle était belle.
BLP Radio. BLP.